prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, voici les miracles.
Évangile de Marc, un passage des plus connus dans l'Évangile, et puis après nous allons nous reporter sur un autre texte. Voilà, alors donc Marc 16, c'est ce que l'on appelle l'Évangile de l'Ascension. Jésus, avant de monter au ciel, a donné ses avis et puis également des paroles d'ordre de mission à ses disciples, et en substance, nous les avons donc au verset 15 du chapitre 16 de Marc. Puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » Voilà, on verra la suite. Deuxième lecture dans le livre du prophète Ésaïe. Il s'agit du chapitre 35, et vous allez certainement faire le rapprochement de cette parole, qui est une parole prophétique, et dont l'accomplissement, eh bien, c'est le texte que nous avons lu dans Marc. Voilà. Les choses sont dites, et les choses sont accomplies. Alors, il y a un délai de 800 ans entre ce que Dieu et ce que nous allons lire a déclaré, et puis l'accomplissement de ce que Jésus, lui, a réalisé. Donc, Ésaïe, chapitre 35, et on va lire à partir du verset 4. « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. » Elle viendra, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, les douleurs et les gémissements s'enfuiront. Voilà pour cette parole prophétique, prédiction, transmise tout simplement sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu par un homme qui s'appelle Ésaïe. Et ce n'est pas pour rien qu'on a appelé le livre du prophète Ésaïe, eh bien l'évangile avant l'évangile, parce qu'il y a tellement de références, tellement de précisions. Alors les choses ne sont plus à faire maintenant, elles sont faites. C'est ce qui fait peut-être l'étonnement. Comment le monde n'arrive-t-il pas à croire, puisque les choses ont été annoncées et elles ont été accomplies? Les gens demandent des miracles, ils demandent des signes. Il demande toutes sortes de manifestations pour dire, un petit peu comme les pharisiens le disaient à Jésus, « Montre-nous un signe pour que nous croyons en toi. » Vous vous rendez compte, ça fait 2800 ans que la première parole a été accomplie. Enfin, elle a été dite, accomplie il y a 2000 ans, et aujourd'hui nous en avons encore les preuves patentes. Pour tous ceux qui lisent la Bible, ils peuvent dire, mais les choses sont accomplies. Alors, on va voir, hein, brièvement, quand Jésus a envoyé ses disciples, c'est un testament qu'il leur a laissé, un testament de service, une mission, et il leur dit tout simplement après sa résurrection, alors vous allez aller par tout le monde et vous prêcherez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà, ce n'était plus limité à un peuple, une nation, le peuple d'Israël, l'élu de Dieu, mais le salut, le message de salut allait devenir eh bien, universel. Il y avait là une volonté de Dieu de sauver tous les hommes. Le peuple juif a été le peuple privilégié, détenant les oracles de Dieu, les manifestations de la puissance de Dieu, mais maintenant, c'en est fini, toutes les créatures, tous les hommes sur la terre sont des créatures de Dieu. Alors il faut qu'ils entendent. Et Jésus va tout simplement, eh bien, dans ce testament, dans cet ordre de mission, il dira, mais vous allez maintenant partout le monde et vous allez prêcher la bonne nouvelle, prêcher. Dire, raconter, proclamer, acclamer, dites autour de vous ce que vous savez. Alors, ces hommes qui étaient là et qui étaient, au service et qui allaient rentrer dans la moisson, dans la carrière, principalement, c'était tous des disciples. Et non seulement ils avaient entendu cette parole, mais ils l'avaient vu réaliser à travers tout simplement la vie de Jésus pendant 3 ans. Quand il était question de miracles sur la nature, de miracles dans l'ordre spirituel, mauvais, ténébreux, les choses se sont accomplies. Quand il s'agissait de donner à manger aux affamés, les pains, les poissons, de changer l'eau en vin, et toutes sortes d'autres choses, les malades guéris, les boiteux, etc., qui se mettent à marcher. Alors ça, c'était quand même aussi une réalité. Les choses se sont accomplies. Elles sont là comme le témoignage de dire, eh bien voilà, ce que Dieu a dit, c'est la vérité, c'est vrai. Croyez-le, tout simplement. Alors, ils étaient certainement ses disciples du moment, ces 11, puisqu'il y en a un qui manque, mais on sait pourquoi, ils étaient certainement tout emplis de cette expérience toute nouvelle et récente d'avoir partagé avec Jésus 3 années, et puis d'avoir entendu ses paroles, et maintenant il leur dit, et il les avait prévenus à l'avance, il a dit, maintenant moi je retourne vers mon Père, je vais vous préparer une place, mais vous en attendant que je revienne, parce que ça c'est aussi déclaré, eh bien maintenant vous allez servir, vous allez dire tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu, et vous allez dire tout ce que vous avez vécu, c'est-à-dire que votre témoignage eh bien aura une force expérimentale. C'est pas des choses annoncées, c'est pas des choses à venir, ce sont des choses présentes. Maintenant, alors vous allez partout le monde, toutes les régions connues ou inconnues, et à travers les siècles, on sait très bien qu'il y avait encore, à l'époque de Jésus, au moment où il apparaît, il y avait bien des terres qui n'avaient pas été découvertes. Ce que nous connaissons aujourd'hui, et quand on voit, et quand on sait que, eh bien, au moment où je vous parle, eh bien, des hommes parcourent le monde, on les appelle des missionnaires, naturellement, dans une manière ou d'une autre, ils peuvent être tout simplement des missionnaires, simplement pour traduire les Écritures saintes, à travers, des dialectes. Alors, aujourd'hui, je crois qu'on a dépassé les 1900 traductions, de la Bible, c'est quelque chose, et je passe sur les nouveautés, sur la traduction du Nouveau Testament, ou des portions d'évangiles, qui là se répandent dans le monde entier. Alors, vous prêchez la bonne nouvelle. Voilà, le monde a besoin de savoir, il faut que le monde sache. Et vous allez là, ici ou ailleurs, et la bonne nouvelle à toute la création. Voilà, tous les hommes doivent être au courant. Et quel était le contenu de cette prédication? Eh bien, c'est ce que nous avons lu dans Ésaïe, parce que ça commence de la même manière. Allez et prêchez. Ça pourrait se traduire tout simplement ou se décliner de cette manière. Allez et dites. Et dites à ceux qui ont le cœur troublé, parce que c'est cela. Dans le monde, dans les nations, parmi les peuples, c'est vers cela que je vous envoie. Et ça rejoint un peu le sermon sur la montagne des Béatitudes, où la priorité est donnée à tous les pauvres, à tous les affamés, à tous les assoiffés, à tous ceux qui souffrent de l'injustice, à tous ceux qui sont maltraités, persécutés, qui sont honnis, rejetés, etc., qui sont en mal, qui sont dans le mal, qui sont malheureux, qui souffrent d'un immense malaise, parce qu'il leur manque quelque chose au fond d'eux-mêmes. Alors, pour tous ceux-là qui ont le cœur troublé, vous allez leur dire une chose, prenez courage et ne craignez point. Ça, ce sont des paroles que nous trouvons dans la bouche de Jésus, dans tout le cheminement, dans tout ce qu'il va d'un lieu à un autre, dans toutes ses pérégrinations, nous pourrions dire. Et souvent, lorsqu'il fait face à la misère des hommes, très très souvent, la première réaction humaine, c'est de dire... Eh bien, de manifester la peur. Vous savez, cette peur initiale, cette première peur qui est apparue dans le jardin d'Éden, quand l'homme et la femme, ont commencé à se dissimuler quand Dieu les a appelés. Et Dieu dira, mais pourquoi as-tu eu peur? Alors ils vont expliquer pourquoi ils ont eu peur, parce qu'il y a naturellement une raison, hein, et qui fait que la peur a toujours demeuré, elle est toujours là, elle est au fond des cœurs, et les siècles passent, les hommes passent aussi, mais toujours est-il que nous transmettons à nos descendants toujours le même, cet atavisme, vous savez, cette peur irrationnelle, et nous avons peur de quoi? Pas du mal. Ouais, nous avons peur de Dieu. Ouais, et pourtant c'est lui qui s'approche. C'est lui qui vient vers nous pour nous dire, tout simplement, ne craignez pas. Je ne suis pas contre vous, je suis avec vous, je suis pour vous. C'est comme cela que celui que le monde va bientôt célébrer traditionnellement, mais nous on pense autrement, s'appellera Jésus Emmanuel. Je ne suis pas contre vous, je suis venu justement précisément pour vous tendre la main et vous sauver. Alors, dans ce message que les apôtres vont recevoir à répondre dans le monde entier, c'est celui-ci, tout simplement. Eh bien, prenez courage et ne craignez point, parce qu'il y a un espoir, parce qu'il y a une espérance, comme le dira le prophète Malachi, parce que le soleil de justice se lève. Et il y a une suite à cela. Non seulement le soleil de justice apparaît, mais la guérison est dans ses rayons. Et c'est précisément ce que nous allons voir, la guérison divine. Précisément, la guérison divine qui s'adresse au corps, et qui s'adresse à l'âme. Parce que quand il est question de cœur troublé, c'est pas une guérison du corps qu'on a besoin, c'est une guérison de l'âme. Mais peu importe, c'est la même chose, c'est le même principe. Et avec cette proclamation, comme nous le lisons, comme nous l'avons devant les yeux, il dit, mais voici votre Dieu. Ouais. Voici votre Dieu. C'est en mon nom, c'est par mon nom, c'est avec la puissance de mon nom que vous allez pouvoir aller parler et que vous pourrez accomplir les miracles, qui va authentifier celui qui vous envoie. Alors, voici votre Dieu. Dans toutes les réunions d'évangélisation, c'est ce que nous disons en substance. Dieu est là. Le Seigneur est au milieu de nous. Une des dernières paroles de l'évangile de Matthieu que vous connaissez, 28:16, ce n'est pas autre chose. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et parce que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, la logique, c'est ne craignez pas. Est-ce que la présence de Dieu nous ferait peur? Est-ce que la présence de Jésus est redoutable, ou elle est bénéfique, elle est bienfaisante, elle est libératrice? Alors c'est cela. Donc, voici votre Dieu. Et quand il est question de la vengeance, un mot qui nous surprend, la vengeance viendra, et la rétribution de Dieu, souvent nous l'interprétons comme un jugement et comme un rejet, une réjection de Dieu. Mais moi, je voudrais y voir autre chose. La vengeance viendra. Cette vengeance de Dieu viendra non pas sur les hommes, mais sur celui qui est l'auteur du mal. Celui qui est la cause du mal, la cause du péché, celui qui a induit les hommes et qui les a rendus malheureux et par voie de conséquence, à cause de leur faiblesse et de leur crédulité à entendre et à comprendre et à accepter le mensonge, ils se sont mis dans une situation de dépendance, une dimension de souffrance, une dimension de chagrin et de peine et de mort. Alors la vengeance, nous pouvons la comprendre de cette manière. Oui, la vengeance vient, et elle vient à travers celui qui est appelé le Messie, pour vaincre le diable, pour l'écraser, pour le piétiner, comme cette ancestrale promesse de Genèse, chapitre 3, verset 15, où il nous est dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire du mal. Donc la vengeance, elle est là, elle n'est pas pour nous. Dieu n'est pas venu en Jésus-Christ pour nous demander des comptes. Il est venu pour nous offrir la possibilité de nous remettre finalement, là en communion, en relation avec lui, en passant naturellement par la repentance, en passant par ce qu'on appelle la conversion, un choix, et puis une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Alors, il viendra lui-même et il vous sauvera, que ce sont des paroles extraordinaires. Lui-même, Dieu vient. Et ça, nous touchons à l'incarnation de Dieu se faisant homme. Il viendra lui-même, ce Dieu des Juifs qui était perdu dans l'immensité du ciel, qui était là, inconnaissable, impossible de pouvoir finalement l'approcher, parce que tellement lointain, tellement perdu dans cet univers qui est le sien. Nous voyons que la promesse nous est donnée d'une manière tellement remplie de tendresse, et c'est une véritable invitation. Mais il viendra lui-même. Et voyez-vous, cette approche, dans ce mois-ci, c'est vraiment la venue de Dieu lui-même. Dieu incarné, le Dieu inconnaissable, le Dieu insaisissable, il vient. Il vient dans un homme, il se fait homme. Il se met dans la condition des hommes, il va prendre la corporalité. Il va prendre notre humanité avec à la fois le bon et le mauvais, à la fois les joies des hommes et puis aussi ses souffrances. Et il ira même plus loin. Il ira jusqu'à donner sa vie. Il ira jusqu'à offrir son corps. Pour qu'à travers cette offrance, nous puissions avoir la vie. Parce que la preuve que Dieu n'a pas délaissé Jésus à la croix, bien que Jésus ait dit « Mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est faux. Parce que la preuve et le démenti certain, c'est que Jésus n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité. Il est la vie pour nous communiquer la vie. Alors, il viendra lui-même. C'est le commentaire de ce texte. Et il nous est simplement nous dit « Il viendra lui-même, mais pour vous sauver. » Il vous sauvera. Parce que le but ultime de la venue de Christ sur cette terre est le corps même de la bonne nouvelle dont les disciples étaient chargés par Jésus d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, jusque parmi toutes les nations, eh bien c'était bien de proclamer le salut. Ça c'est l'essentiel. Le salut en Dieu, le salut de Dieu et le salut par Dieu dans la personne de Jésus. Alors, on va continuer. Si je mets les deux textes en parallèle, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a là quelque chose qui nous interpelle, parce que vous avez remarqué avec moi qu'il est question d'une démarche morale qui émane du cœur de l'homme, c'est sa capacité de croire ou de ne pas croire. C'est-à-dire que ça repose sur sa liberté. Nous avons un Dieu qui ne nous a pas fait des robots, ou qui n'a pas fait de nous des automates, qui n'a pas fait de nous, tout simplement, des instruments, comme quelquefois nous l'entendons. Dans les chants, fais de moi un instrument. Moi, je change toujours quand j'ai la possibilité. Je dis, mais tu nous as fait un agent. Un agent, c'est vivant, c'est autre chose. Nous ne sommes pas des... Voilà. Nous sommes des créatures, pensantes et intelligentes, et nous avons notre propre arbitre, notre libre arbitre pour nous déterminer si nous voulons, oui ou non, croire. Parce que tout repose sur la foi. Ce n'est pas les bonnes œuvres, ce n'est pas d'être ceci ou cela, mais celui qui croira et qui sera baptisé, deuxième étape, une nouvelle révolutionnaire pour le temps de Jésus, parce que le baptême, il n'en avait jamais entendu parler, ça n'arrive qu'à ce moment, mais il y avait une signification multiple dont nous aurons l'occasion probablement de reparler, mais une chose qui est certaine, c'était que c'est avant tout la manifestation dans le baptême de notre foi en Jésus-Christ et de notre obéissance, la foi et l'obéissance, avec toute une symbolique qui fait que celui qui est baptisé est plongé, donc il meurt et il remonte de l'eau et il ressuscite, c'est le symbole finalement de la mort et de la résurrection, identification à ce que Jésus a accompli pour nous, pour notre salut. Alors voilà, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. N'allons pas penser et n'allons pas dire que c'est Dieu qui nous condamne. Au contraire, c'est nous qui nous condamnons nous-mêmes par incrédulité ou refus d'obéir au Seigneur dans ce qu'il nous dit pour notre propre bien. Et à ce moment-là, ce n'est pas Dieu qui nous juge, c'est nous qui nous jugeons nous-mêmes sur un point bien particulier, c'est que nous disons « Seigneur, je n'y crois pas. Je ne veux pas y croire. Ça ne m'intéresse pas. Je n'obéirai pas parce que je ne crois pas que ce soit nécessaire. » Par contre, celui qui se laisse fléchir et qui laisse son cœur parler ou laisse l'esprit lui parler, il sera toujours conduit à croire. Et ensuite, quand on croit, on obéit parce que c'est la preuve de l'authenticité et de la véracité de notre foi. Celui qui dit « je crois » et qui finalement en fait qu'à sa tête ou fait comme il veut, ça ne sert à rien de dire « je crois ». Au contraire, il apporte un démenti flagrant qu'il ne croit pas. La foi est toujours suivie d'une obéissance. Autrement, ça sert à quoi ? Ça ne sert absolument à rien, sinon de rendre l'évangile pour nous-mêmes, inopérant, caduc. Et nous en arrivons à la suite. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les malades et les malades seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a là une perspective d'avenir. De présent, ils n'étaient pas encore sur les routes poussiéreuses des chemins de la terre, les disciples. Ils étaient là au départ, mais Jésus leur a dit « Vous pouvez y aller, je vous envoie. Je vous envoie ». Et voici les miracles, voici les signes de Dieu, voici l'intervention surnaturelle de celui que vous appelez votre Dieu et votre Sauveur et votre Seigneur, Et vous allez pouvoir apporter une parole aux hommes, mais une parole ne suffit pas. Il faut que derrière cette parole, il y ait l'authentification que ce que vous dites, c'est la vérité, et cette vérité, elle se manifestera. Vous savez, c'est ce que les gens veulent voir aujourd'hui. Hein. Prêcher l'évangile est une chose. Maintenant, il faut qu'il y ait des preuves à cet évangile. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est encore beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Mais l'homme a ce caractère semi-religieux et superstitieux, c'est qu'il veut toucher, il veut voir, il veut sentir. C'est pas l'esprit, c'est l'âme. Et dans toutes les religions, c'est comme ça. Et même dans les religions dites chrétiennes historiques. C'est pour ça qu'il y a des pèlerinages, il y a des lieux de toutes sortes de choses. Mais néanmoins, Jésus, venant en aide à son église première, à ces premiers hommes qui vont partir prêcher l'évangile, il faut qu'il y ait quelque chose de fort, quelque chose d'authentique. Il faut que dans notre monde aussi, en 2012, eh bien, que les gens qui sont si nombreux à être à l'extérieur, lorsqu'ils viennent écouter l'évangile, il faut qu'ils aient aussi la preuve de ce qui est annoncé, même si c'est bien dit, même si c'est une belle parole, mais que cette parole est avant tout pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu, et que là, ils puissent être complètement bouleversés. Si c'est pas à travers des miracles et des signes visibles, ça sera quelque chose qui va se manifester au fond de leur cœur. Et je crois que le plus grand miracle encore, ce n'est pas de voir des boiteux marcher, des aveugles voir et des sourds entendre, c'est de voir quand un homme se convertit à Jésus-Christ. Ça, c'est le plus grand de tous les miracles. Ça ne se voit pas en apparence, hein, mais c'est pourtant le plus grand. Alors, dans ces miracles dont il est question, revenons 800 ans auparavant dans ce livre du prophète Ésaïe. De quoi est-il question ? Il vous sauvera. Il vous sauvera de quoi ? De vos maladies. De vos maladies physiques, de vos maladies spirituelles, de vos maladies morales. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Il y a deux formes de délivrance de la cécité. Il y a celle qui intéresse notre vision humaine, notre vision charnelle. On appelle ça tout simplement nos yeux. Hein, les yeux que nous avons et qui nous permet d'appréhender le monde qui est autour de nous. Dieu guérit les aveugles. Et puis il y a aussi les aveugles moraux et les aveugles spirituels. Et ceux-là aussi ont besoin d'être guéris. Ça, c'est un miracle. C'est un miracle à double sens, nous pourrions dire, avec double destination. Alors s'ouvriront les sourds. Oui, il y a ceux qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. Et puis il y a ceux qui sont sourds parce qu'ils sont entêtés, parce qu'ils sont butés, parce qu'ils sont incrédules, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui font obstacle. Ils écoutent sans entendre. Comprenez la nuance ? Il y a des gens qui écoutent, mais qui n'entendent pas. Parce que ça ne va pas plus loin que leur tête, ça ne va pas plus loin que leur intelligence. Il faut que ces sourds-là puissent entendre. Et Jésus est venu aussi, dans le double sens, guérir les sourds physiques, et puis ceux qu'ils sont moralement. Alors, le boiteux sautera comme un cerf. Alors, nous avons beaucoup de témoignages dans l'Évangile où Jésus, là, se tourne vers l'un, se tourne vers l'autre, même dans les Actes des Apôtres. Je pense à Pierre et à Jean, montant au temple et qui guérit cet homme, qui est là, impotent. Je pense à Paul, dans la ville de Lystre, qui fait marcher un homme qui est boiteux de naissance. Hein, également à la piscine de Bethesda, j'en passe, et il y en a tellement comme cela. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et quand vous constatez toutes ces guérisons de l'impotence des jambes ou tout simplement de l'infirmité des gens qui ne peuvent pas marcher, une fois qu'ils retrouvent la voie, vous savez ce qu'ils font ? Ils sautent. Vous avez vu dans le temple de Jérusalem ? Ils sautent et ils crient, ils louent et ils adorent Dieu. Ah, c'est quelque chose. Hein. Et la langue du muet éclatera de joie. Ouais. Il y a des muets qui sont guéris par Jésus encore aujourd'hui. Et puis, moi je dis qu'il y a beaucoup de muets dans ce monde. Vous savez, tous ceux qui ne peuvent pas parler positivement, tous ceux qui ne peuvent pas chanter, tous ceux qui n'ont pas la joie dans le cœur, qui sont aux prises avec la neurasthénie, qui sont aux prises avec la dépression, ce sont des muets. Hein. Et quand ils parlent, c'est pour dire que tout va mal. Quand ils parlent, c'est pour parler de la mort. Hein. C'est pour parler de tout ce qui est négatif. Hein. Ce sont des muets. Eh bien, vous savez ce qu'il a fait ? Nous étions aveugles. Nous étions boiteux. Nous étions sourds et nous étions muets et aujourd'hui, on chante des cantiques. Et on les chante de tout notre cœur, non ? Oui, oui. Alors vous pouvez y aller. Hein. Allez-y, hein. Chantez des cantiques. Hein. Vous ferez la preuve que vous n'êtes pas muet, le Seigneur. Parce que la première chose que nous avons découvert finalement dans notre vie, je ne sais pas si vous en souvenez, pour moi je m'en souviens, ça fait longtemps. Hein. Eh bien, la première chose, on en parlait tout à l'heure, j'ai été touché profondément par un petit cantique. Oui, c'est ça ce qui m'a bouleversé. Après, j'ai entendu l'évangile, mais la première chose qui m'a bouleversé, c'est un cantique. Et j'ai chanté. Avant, j'avais vraiment pas envie de chanter. Hein. Il y a longtemps que je n'avais pas chanté. Hein. Et ça, c'est vraiment le miracle de l'Esprit. Alors, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Eh bien, vous avez la liste. Car des eaux jailliront du désert, des ruisseaux de la solitude. Merci Seigneur de ce que tu nous as sorti de notre misère et de notre isolement. Ouais, nos vies étaient un désert. Notre vie était aride. Et pourtant, tu nous as sorti de la solitude. Nous mourions de solitude et d'isolement. Et tu nous en as sorti. Tu nous en as extrait, Seigneur. Et moi, je peux dire, mais Seigneur, tu m'as donné une famille. J'en avais déjà une, mais il m'en a donné encore une beaucoup plus grande. Ce sont les chrétiens, d'ici et d'ailleurs, partout. Je ne suis pas seul. Vous n'êtes pas seul. Ça, il faut le savoir. J'ai du mal à comprendre ceux qui s'isolent, qui retournent à l'isolement. Parce que quand on veut bien voir les choses, et quand on veut bien se donner comme il convient de se donner, vous savez, il y a un échange, une richesse à échanger entre nous. Et ça, c'est formidable. C'est formidable. Alors, ces eaux vont jaillir dans le désert, là où on ne les attendait pas. Et vous savez que dans la conversion des gens, quelquefois, nous avons des préjugés. Et nous disons, celui-ci se convertira jamais. Eh bien, lui, il est dans le désert et c'est là, les eaux vont sortir de là. Alors que nous pensions que l'autre, qui était bien un bon garçon, qui était vraiment un brave homme, et qui n'avait jamais fait de mal à personne, eh bien, celui-ci, il se convertira jamais. Parce que finalement, ça ne correspond pas, ça ne va pas. Vous savez, ne regardons pas trop près, hein, parce que vous savez, les pharisiens et les sadducéens, ils ont été très sévères avec le jugement vis-à-vis de Jésus, parce que Jésus allait manger avec les gens de mauvaise vie, avec les prostituées et tout ça. Les autorités religieuses haussaient les épaules en disant, mais il est bien comme eux, hein, alors faut pas qu'ils nous fassent croire qu'il est prophète. Et pourtant, ce sont ces gens-là qui ont accepté la parole de Dieu. Les eaux ont jailli du désert, faut que s'en souvenir. Les ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Vous savez ce que c'est qu'un mirage? Il n'y en a pas beaucoup par ici, hein, des mirages. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des mirages, des illusions. Vous savez, les mirages, c'est quelque chose que vous voyez, parce que c'est le produit souvent de notre misère, hein, d'un besoin impérieux. Comme le voyageur dans le désert, il a soif, alors il voit à un moment donné, dans son délire, il voit comme s'il y avait une oasis. Alors il se précipite, il va de plus en plus vite, il passe les dunes, etc., etc. Il arrive épuisé parce qu'il n'y a rien du tout, vous comprenez? Il aurait mieux fait d'y aller tranquillement parce qu'il n'y avait rien. Eh bien, les gens courent comme ça, vous savez, ils courent après des mirages. Ils voient quelque chose qui brille. Ils se disent, ça c'est pour moi, c'est formidable, c'est la raison de ma vie. Alors je vais l'atteindre, projet, tout ce que vous voudrez. Et puis, ils s'épuisent à courir. Et quand ils arrivent là où ils pensent qu'il est, il n'y a rien du tout. Toute la vie des hommes est souvent comme ça. Et c'est la déception. Et qui dit la déception dit dépression. C'est terrible. Alors le mirage pour le croyant, parce que Jésus n'est pas un mirage. La parole de Dieu nous dit la vérité. Quand elle promet, ça s'accomplit. Et ce n'est pas un mirage. Alors le mirage à ce moment-là, se changera en étang où je pourrais me désaltérer. Vous savez, comme la Samaritaine au puits de Sichar, elle ne s'est pas trompée, parce qu'elle n'a pas regardé seulement au fond du puits. Jésus lui dit, lève la tête et regarde-moi et crois en moi. Et là, elle a découvert qu'il y avait une autre source de vie. Dans le repère qui servait au gîte du chacal, croîtront les roseaux et les ajoncs. Il y aura là une autre destination, là où c'était pour les bêtes sauvages, eh bien, il y aura de la végétation luxuriante. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appelle la voie sainte. Vous savez comment on pourrait appeler la voie sainte qui est dont nous venons de parler? Eh bien, c'est tout simplement le message de l'évangile. Les premiers chrétiens, dans le livre des Actes, lorsqu'ils prêchaient Jésus, vous savez comment ils l'appelaient? La voie du Seigneur, mais V-O-I-E, qui laissait entendre la voie V-O-X, naturellement. Hein? Mais il l'appelait la voie, tout simplement. Et regardez comment ça nous est présenté. Il nous est dit qu'il y aura là un chemin, tout simplement, frayé. Une route, un chemin, c'est une chose, débarrassé de tous les encombrements, mais ça sera une route. Vous faites la différence quand vous roulez sur un chemin de terre et que vous roulez sur l'autoroute. Hein? C'est un petit peu plus confortable, naturellement. Eh bien, c'est ça l'évangile. Ouais, c'est ça l'évangile. C'est une route. Et si nous la suivons, Alors à ce moment-là, nous sommes sûrs d'arriver au bout. C'est le message, tout simplement. On l'appellera la voix sainte. Alors des voix saintes, combien d'hommes empêtrés dans des chemins rocailleux et épineux de diverses religions se sont égarés. Et ils l'ont appelé aussi la voix sainte, parce que pour eux c'était saint. Mais pour qu'il y ait ce caractère de sainteté, il faut que ça vienne de celui qui est saint, et non pas d'un homme qui se dit prophète et qui se dit « je suis saint », ou d'une religion qui se dit sainte, ou je ne sais quelle philosophie religieuse, ou telle théologie religieuse qui te dit sainte. La voix sainte, c'est la voix qui est tracée par celui qui est trois fois saint, c'est-à-dire le Seigneur. C'est la parole, tout simplement. Alors on l'appellera la voix sainte. Et à ce moment-là, nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, pour ceux qui croient, pour ceux qui ont accepté ce message. Ce sera pour nous, tout simplement. Ceux qui la suivront, même les insensés, alors faut le faire, ils ne pourront même pas s'égarer. Parce qu'un insensé avec Dieu, s'il véritablement il remet sa vie en Dieu, il n'est plus un insensé, il devient un sage et un prudent. C'est pourquoi ? Parce qu'il a bien compris que sa vie, il faut qu'il la construise, non pas sur le sable, mais sur le roc. Ça change tout, même les insensés, vous vous rendez compte ? On est arrivé, on était un peu fou hein, quand même. Hein. Enfin, je parle pour moi. Hein. Quand on est arrivé, on était fou. Moi, que je pense, oh, je n'ai pas fait les 400 coups, mais quand même, je me dis, mais Seigneur, c'est pas possible. On m'a raconté des fadaises, on m'avait raconté toutes sortes de choses, tout en respectant, c'est vrai, hein, ce temps-là, mais toujours est-il qu'il y avait des paroles, comme Paul le dira à Timothée, « Garde ces paroles qui peuvent te rendre sage à salut. » Et même les insensés deviennent sages, des hommes sages. Ceux qui la suivront donc ne pourront s'égarer sur cette route, point de lion. Tiens, ça vous dit rien? Il y en a un qui s'appelle le lion dans... Alors on connaît le lion de Judas, mais bon, c'est pas de celui-ci que je vous parlais. Vous savez, le lion rugissant qui se met en embuscade cherchant qui il dévorera dans l'évangile. Non, dans l'épître de Jacques et l'épître de Pierre. Il n'y a pas de lion. Il rôde. Mais on ne le trouvera pas au milieu de la route. Il est sur les côtés. Il n'est pas au milieu parce qu'il était chassé. Il était complètement éliminé par tout simplement la mort de Jésus à la croix et la résurrection. Alors il n'y aura pas de lion, il sera sur les côtés. C'est pourquoi nous sommes parfois, passez-moi l'expression, mais mordillés. Ça vous va ? Oui ? On est mordillé, on est tenté, on est quelquefois chahuté, on est disputé. Mais il n'est pas sur la route, il est sur les côtés. Et nous savons ce qu'il faut faire, il faut filer notre chemin, tout simplement. Et ne pas y prêter attention, parce qu'il va essayer de faire des choses qui peuvent et sont susceptibles de nous faire sortir du chemin. Je pense à la tentation, je pense à la suggestion, je pense à l'accablement de nos pensées, à parfois, eh bien, tout ce qu'il peut tirer des bordées pour nous accuser. Alors attention, je le répète, attention à l'auto-accusation. Si l'accusation vient du Saint-Esprit, vous savez ce qu'il faut faire, c'est pas un problème, on se repent et on repart. Mais quand c'est le diable qui nous tourmente jour et nuit avec des fausses accusations, c'est que le lion, il est tout autour. Hein. Il n'est pas dedans, il n'est pas dessus sur la route, mais il est tout autour. Ne l'écoutez pas. Parce que si vous voulez être malheureux, c'est le meilleur moyen. Hein. Vous n'avancerez jamais. Parce que le Seigneur vous dit de prendre la route et de marcher, mais si vous êtes à chaque pas en train de vous arrêter et d'écouter encore la voix du menteur, les rugissements du lion, parce que le problème du lion, c'est pas quand il ouvre la bouche que c'est grave, c'est quand il la ferme. C'est logique. Et puis, un lion, une stratégie d'attaque, il pétrifie ses victimes par un rugissement qui les neutralise. Alors ne l'écoutez pas parce que ce n'est qu'un rugissement. Écoutez plutôt la voix du Seigneur, ça vaudra mieux. Nulle bête féroce ne la prendra cette route, nul ne s'y rencontrera, et je termine, les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête, l'allégresse et la joie s'approcheront, les douleurs et les gémissements s'enfuiront. C'est pas beau ? Ça n'a pas l'air. C'est beau ? Non, mais je voudrais vous faire réagir hein, quand même. Parce qu'il me semble que je suis tout seul. Que je sois tout seul. Non, ça va. C'est beau l'évangile, non? Écoutez, c'est extraordinaire et on l'aime cet évangile. Mais oui, naturellement. La joie, l'allégresse, comme une couronne sur notre tête. Vous avez déjà porté une couronne? Bah écoutez, présentez-vous aux élections là en 2012, vous allez peut-être en avoir une. La couronne et l'écharpe. Enfin écoutez, je voterai pour vous si vous me le dites. Chant de triomphe couronnera leur retraite, l'allégresse et la joie. Et puis après, tout ce qui a été la caractéristique de notre vie, les gémissements et puis la douleur, eh bien, exit, terminé, c'est fini. Ça ne veut pas dire que l'évangile est un évangile à l'eau de rose. Il y aura des combats, il y aura des luttes. Mais quand nous marchons dans cet état d'esprit et que là, à ce moment-là, eh bien, nous entendons cette parole qui est annoncée jusque aux extrémités de la terre. Si nous avons satisfait à l'exigence de Dieu de croire, et puis de cette obéissance comme nous l'avons souligné, alors à ce moment-là, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il en est donné d'autres, je vais terminer dessus, en mon nom, dans le nom de Jésus, pas dans le nom de ceci et cela, dans le nom de Jésus-Christ et par le nom de Jésus, parce qu'il y a une autorité. Jésus nous dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Dans le ciel et sur la terre. Nous sommes sur la terre, mais ça vient du ciel. Alors à ce moment-là, ils chasseront les démons. Ouais. Les démons reculent. Ne serait-ce que déjà à travers la proclamation de l'évangile, eh bien, ils marquent finalement le recul. Et puis après, on peut aller plus loin. Ils parleront de nouvelles langues. C'est ce qu'on appelle la glossolalie. Ça vous dit quelque chose ? Hein, parler en de nouvelles langues. Les gens sont étonnés quelquefois. Ils disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ils ne parlent pas français. Ben oui. Vous savez de quoi vous parlez? Non, vous ne savez pas. Et pourtant, c'est une langue extatique qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Et Paul l'explique bien dans 1 Corinthiens, chapitre 12, 13 et 14, mais chapitre 12 en particulier, ce don extraordinaire de parler en langue. Moi, quand je suis arrivé dans les milieux charismatiques, évangéliques charismatiques, c'est une chose que j'ai découverte parce que je connaissais, c'est vrai, la religion romaine. J'ai été aussi enseigné dans les milieux protestants réformés, mais on ne m'avait pas forcément trop parlé de l'expérience. On connaissait le Saint-Esprit, mais on n'en connaissait pas l'expérience. Et quand je suis arrivé, j'ai demandé à Dieu qu'il me baptise du Saint-Esprit. J'ai prié, ça ne venait pas. Puis à un moment donné, à travers une expérience conjointe, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Je ne pouvais plus m'arrêter, figurez-vous. Formidable. Et quand je suis arrivé chez moi, j'ai dit à mon père qui ne connaissait pas grand-chose, de ça, en tous les cas, je lui ai dit, parce qu'on est très zélé hein, quand on découvre le Seigneur, je lui ai dit, papa, je suis baptisé du Saint-Esprit, je parle en langue. Ouh. Là, il ne comprenait plus. Mais oui, parce que c'est une expérience qui est donnée aux enfants de Dieu. Ouais. Alors, si vous parlez en langue, eh bien, parlez en langue. Si vous avez perdu ou si vous avez pris un peu de recul, demandez à Dieu qu'il vous renouvelle et vous verrez les sources d'eau vive couleront dans votre sein jusque dans la vie éternelle. Et c'est une force, c'est une autorité. Paul le dit, quand je parle en langue, je m'édifie moi-même. Trop de chrétiens se disent, je suis à plat, je n'en peux plus, ceci, cela. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, priez en langue, vous allez voir, ça va repartir. Hein, je ne pourrais pas prêcher si je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit comme je le fais. Ça, c'est clair. Ils saisiront des serpents. Alors, je ne vous le conseille pas, pour voir comment ça fait. Hein. Mais toujours est-il qu'on a souvent entendu des témoignages dans des milieux de savane où nous avons envoyé des Africains. J'ai entendu, moi, des témoignages extraordinaires de dire, eh bien voilà, par malencontreusement, hein, c'est pas aller soulever les pierres, hein, mais malencontreusement, de se faire mordre par un serpent où il n'y avait absolument pas de possibilité, où le dispensaire était peut-être à 200 ou 300 kilomètres, et de dire, Seigneur, écoute, hein, maintenant, j'en suis là, je vais mourir, parce que je suis mordu par ce serpent, je vais mourir. Et de faire en sorte que, tout simplement, eh bien, par la grâce de Dieu, comme Paul dans l'île de Malte, eh bien, tout ce qui est toxique et poison disparaît. Alors c'est vrai pour les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, idem, il ne leur fera point de mal. Certains disant, vous êtes vraiment des illuminés. Mais je parle de situations accidentelles. C'est pas d'aller vous faire une tisane au cyanure ce soir, moi je réponds de rien. Parce que vous allez avoir mal au ventre. Puis cette semaine, j'ai pas envie de forcément faire une sépulture. Voilà. Enfin, je vous le dis, je vous annonce tout de suite la couleur. Alors, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça subsiste. Nous annonçons l'évangile et nous prions à l'issue de nos réunions pour tous ceux qui sont souffrants physiquement, moralement. et le Seigneur accomplit sa grâce. Combien nous avons vu d'hommes, de femmes touchés par la grâce de Dieu à l'imposition des mains et guéris. Extraordinaire. C'est encore d'actualité. Vous savez, l'actualité, ce qui fait défaut, c'est pas qu'il n'y ait pas de pasteurs qui prêchent. Ce n'est pas qu'il y ait peut-être encore des chrétiens dans les églises. Mais le problème, c'est que les miracles de l'imposition des mains, ils ne sont pas forcément faits pour les chrétiens, ils sont faits pour ceux de l'extérieur. Pour authentifier, et j'en arrive à la dernière phrase, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, où il est, et il va bientôt revenir. Et ils s'en allèrent prêcher partout. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont obéi. Le Seigneur travaillait avec eux, et il travaillait avec eux. Il était avec eux, il marchait avec eux, il vivait avec eux, et la suite, il confirmait la parole de ses disciples reçus du Maître, et la confirmation se manifestait par des signes, des miracles, des prodiges, toutes sortes de preuves surnaturelles qui accompagnaient finalement l'annonce de l'Évangile. Annoncez l'Évangile, rendez témoignage, parlez que le Seigneur est encore celui qui est vivant aujourd'hui, et rien ne s'est arrêté. Tout cela, ce n'est pas pour l'ancien temps. Les miracles ne sont pas révolus, c'est encore pour nous aujourd'hui, et simplement il faut y croire. Alors que Dieu nous ouvre les yeux, qu'il nous ouvre nos oreilles, qu'il nous fasse marcher dans sa direction, et que nous puissions véritablement nous approcher de lui avec un cœur rempli de foi, et le Seigneur accomplira et confirmera sa parole. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous croyons à la véracité, Seigneur, de ce que tu dis. Oui, c'est vrai. Nous croyons que ce que tu as dit il y a si longtemps, du temps du prophète Ésaïe, en prévenant, en anticipant, Seigneur, sur la venue de celui qui se présentera comme, notre Dieu, ce Dieu incarné dans la personne de Jésus, celui qui a, en effet, foulé notre terre, et qui est allé particulièrement vers les déshérités, les infortunés, les malades, les aveugles, les boiteux, tous ceux qui souffraient, Seigneur, parce qu'ils avaient un cœur brisé, les opprimés, ceux qui étaient en prison, dans la détresse, d'une manière ou d'une autre. C'est vers cela, précisément, que tu leur as adressé cette parole. Et c'est une parole, Seigneur, qui demeure aujourd'hui. Une parole pour les hommes de notre 21e siècle, parce que les besoins n'ont pas changé. La mort est toujours présente. La maladie, Seigneur, fait ses ravages. Les séparations, les divorces, les difficultés de tous ordres sont là, Seigneur. Et l'homme est toujours en train de se battre avec ses vieux démons, qu'est le mal, ses passions, à travers toutes sortes de choses. Nous croyons que rien n'a changé. Mais Seigneur, nous croyons que si le monde ne change pas, toi tu viens vers nous pour que, avec ta parole, notre vie change. Mais cela, Seigneur, tu le sais très bien, tu nous fais la proposition, tu nous l'offres, tu nous invites, tu nous enjoins, Seigneur, à croire. Mais la clé, Seigneur, pour ouvrir la porte, c'est nous qui l'avons. C'est pas toi. Et nous pouvons dire, oui, Seigneur, je te laisse entrer dans ma vie. Alors tu vas faire de grandes choses. Ou alors, tout simplement, nous pouvons barrer la porte à celui qui frappe à nos cœurs et de lui dire, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas croire. C'est impossible, c'est incroyable, ça ne m'intéresse pas de rester tout simplement indifférent. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te rendre grâce parce que nous pouvons confesser et dire qu'un jour tu es venu, là, nous solliciter. Et nous avons cru par le besoin que tu avais mis au préalable dans nos cœurs que nous ne pouvions pas nous passer de Dieu. Nous ne pouvions pas nous passer de Jésus-Christ. Alors nous avons compris, nous avons ouvert la porte. Et à ce moment-là, Seigneur, sans être en effet des illuminés, nous avons cru qu'en effet tout était possible avec celui qui était venu nous sauver, nous pardonner, nous donner la vie éternelle et régler tous les problèmes de notre vie, nous aider dans notre vie quotidienne où nous avons, c'est vrai, comme tout à chacun, Seigneur, à vivre les vicissitudes de l'existence. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus tout seuls, tu es avec nous et nous sommes avec toi, Seigneur. Alors je veux te rendre grâce, mais je veux penser, Seigneur, à tous ceux qui continuent à marcher sur ce chemin désertique, à regarder, Seigneur, à contempler des mirages qu'ils ne peuvent atteindre parce que ça n'existe pas, à rêver, à fantasmer sur ceci et cela, sur un hypothétique bonheur. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te demande, Père éternel, de les rassembler, de les faire venir à toi. Et par le fait même, Seigneur, que ce qui est important, c'est véritablement qu'ils puissent entendre parler de toi, qu'ils puissent entendre ta parole en l'écoutant, qu'ils puissent la lire, Seigneur, à travers ce message de la Bible, ou d'une manière ou d'une autre, tu n'es pas limité, Seigneur, dans tes actions. Et nous savons, Seigneur, qu'à notre actif, nous pouvons dire, eh bien, Jésus est mon Sauveur, Jésus est mon Seigneur. Et je crois, j'ai cru et je crois encore, eh bien, qu'il est encore capable des plus grands miracles dans ma vie, mais dans la vie aussi des autres. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Amen.